Le risque, c'est qu'il y ait des violences de masse et de grande ampleur, puisque le gouvernement a émis un ultimatum de désarmement des rebelles qui arrive à expiration ce samedi, le samedi 7. Donc il y a un risque d'une confrontation violente dans Bujumbura entre la police et les insurgés.
Vous parlez aussi des massacres à grande échelle. Quels sont les indicateurs?
Les indicateurs, c'est le fait que tous les matins, on retrouve un certain nombre de cadavres dans les rues de Bujumbura. Ça, c'est le premier indicateur. Le deuxième indicateur, c'est le fait que il y a déjà eu des assassinats et tentatives d'assassinat de personnalités importantes au Burundi depuis ces derniers mois. Et puis le troisième indicateur, ce sont des attaques par des groupes, des gens armés sur certaines positions des forces de sécurité. Et l'autre indicateur, c'est le fait qu'il y a maintenant plus de 200 000 Burundais qui se sont enfuis de leur pays depuis le mois de mars.
Pourtant, le gouvernement parle d'exagération. S'agit-il d'une négation de la part de Bujumbura?
Tout ce dont je viens de parler, ce sont des faits. Donc en effet, si le gouvernement est dans une politique de déni en disant que la sécurité règne sur le territoire, d'ailleurs je ne pense pas qu'il dise ça, il a dit ça à un moment, mais après avoir dit il n'y a pas de problème de sécurité au Burundi, maintenant il lance un ultimatum aux insurgés, c'est bien la preuve qu'il considère qu'il y a un danger.
La rhétorique qui rappelle le discours de haine qui a abouti au génocide rwandais, vous en parlez également sur la situation au Burundi.
Un autre génocide, je ne pense pas, mais des massacres à grande échelle, oui.
Comment analysez-vous le comportement de la communauté internationale? S'agit-il d'une négligence ou elle est carrément impuissante?
Elle a été active depuis le début de la crise électorale. Après, malheureusement, elle a été dans une situation d'impuissance parce que le gouvernement burundais a décidé de continuer sur sa trajectoire et n'a écouté aucun avertissement et va continuer d'ailleurs, à mon sens, à n'écouter qu'aucun avertissement puisque maintenant il s'est complètement radicalisé et il est dans une logique d'isolement sur le plan diplomatique. Donc maintenant, la communauté internationale, après avoir essayé de discuter tranquillement et calmement avec le gouvernement, a décidé de passer à l'étape supérieure en prenant des sanctions individuelles, mais aussi des sanctions économiques pour ramener le gouvernement burundais à la raison. On va voir si ça marche ou si c'est un gouvernement qui est en fait prêt à replonger son pays dans la violence, alors que toute la communauté internationale l'a averti que cette voie était extrêmement périlleuse. Je pense qu'à un moment, les gouvernants doivent choisir consciemment entre l'intérêt de leur pays et leur intérêt personnel.
L'armée reste encore silencieuse. Comment vous analysez ce silence?
Après le coup d'État manqué du mois de mai, l'armée a été extrêmement surveillée. Un certain nombre de militaires se sont enfuis, ont quitté le pays. D'autres ont été déplacés dans leur position, si je puis dire. Et comme cette armée a toujours eu une division, a toujours été divisée de manière assez profonde, elle est pour le moment en quelque sorte moins neutralisée, où elle a perdu un peu ses repères. Et par conséquent, on voit que l'essentiel d'ailleurs de toute la répression qui est faite depuis le mois d'août est faite par la police.
Le problème de fond n'est pas résolu. C'est la genèse du troisième mandat. Est-ce que vous pensez que tant que cette question n'est pas vidée, il y aura une stabilité au Burundi?
Je crois qu'il faut que cette question soit abordée dans le cadre de négociations et de voir comment ce problème peut être repris de manière constructive. Je ne pense pas en effet qu'on puisse faire dans le cadre si des discussions reprenaient entre le gouvernement et l'opposition burundaise, je ne pense pas qu'en effet ce problème puisse être écarté et mis de côté. C'est ce qui a conduit au fait que certaines discussions aient été improductives au mois de juin et au mois de juillet.
Le président Nkurunziza, le Burundi, sont presque isolés, étouffés économiquement. Jusque quand pensez-vous le régime de Bujumbura pouvoir résister?
Je n'ai absolument aucune idée. Mais il va sans dire que la situation budgétaire du régime burundais est déjà très, très sérieuse et très tendue. Mais je ne suis pas en mesure de dire combien de temps il peut résister à la pression.
Il y a eu des échauffourées diplomatiques dernièrement entre le Burundi et le Rwanda notamment, la Belgique. Comment vous analysez cela?
Le Burundi est en phase d'isolement diplomatique. Le problème avec la Belgique est lié au fait que la Belgique a décidé de suspendre son aide au Burundi, son aide institutionnelle en tout cas. Et bon, avec le Rwanda, il y a évidemment cette crise qui est aussi à l'origine des tensions. Et l'Union européenne suit la même voie que la Belgique. Donc c'est la radicalisation du gouvernement le conduit à un isolement inévitable.
Qu'est-ce qui pourrait faire résonner finalement le régime de Bujumbura?
Là, j'ai pas de réponse magique, mais je pense que ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire la pression budgétaire et aussi la question des contingents burundais qui font partie des missions de maintien de la paix, sont des leviers d'influence très importants. Même si je ne sais pas quand est-ce que la situation budgétaire arrivera à son point de rupture, il est clair qu'elle est déjà sérieuse. Et de même, les contingents burundais qui sont dans une mission en Somalie et en Centrafrique pourraient aussi être renvoyés chez eux, dans la mesure où il serait très étrange qu'on ait une guerre à l'intérieur du Burundi et en même temps des casques bleus burundais déployés dans d'autres conflits pour essayer de contribuer à la paix.